Dans l'actualité des idées aujourd'hui, sexe et savoir font-ils bon ménage? Avec notre invité, le neurologue Lionel Nakache, chercheur en neurosciences, professeur de médecine et praticien, fin pédagogue, surtout près de 10 ans après, perdons-nous connaissance. Il publie aujourd'hui chez Odile Jacob, Nous sommes toutes des femmes savantes, une réflexion sur la connaissance et la sexualité, née d'une simple expérience de spectateur. C'est en allant voir, en famille, au théâtre, les femmes savantes de Molière, qu'il fut, écrit-il, gagné par une sorte d'intuition qui ne se dissipe pas en rien au fil de la pièce. Au contraire, comme il est toujours bon de réviser, voire de revisiter nos classiques, on va faire ça un peu ensemble aussi aujourd'hui. Bonjour Lionel Nakache.
Bonjour.
Peut-on être à la fois un corps désirant et un cerveau bien fait, bien rempli? C'est la principale question que vous vous posez tout au fil de ce livre. Quelle réponse la pièce de Molière apporte-t-elle à cette question en premier lieu?
Je crois que la réponse que moi j'ai pu y trouver, en assistant à cette représentation, en ayant en tête aussi ce que vous avez rappelé, ça veut dire ce que j'avais écrit précédemment, c'est-à-dire les questions qui m'intéressent sur la connaissance, qu'est-ce que c'est que la connaissance, etc. La perception de cette pièce, c'est de se rendre compte que Molière met en scène 10 personnages et qui ont quelque chose de commun, même si on ne creuse pas l'ensemble de ces personnages aujourd'hui, hein, mais ils ont quelque chose en commun, c'est qu'on peut les décrire comme étant des incarnations d'autant d'échecs possibles qu'imaginables entre la capacité de vivre de manière épanouie, on pourrait dire, une expérience de connaissance, et sa sexualité. Avec des profils, du coup, on a des personnages très différents, mais ce qui les réunit, c'est ce même problème, comme si Molière nous disait, faire les deux, réussir les deux en même temps, c'est pas possible. C'est comme ça, en tout cas, l'idée initiale pour moi, c'était ça. Dès la première scène, on a deux sœurs qui incarnent deux manifestations symétriques, comme ça, on pourrait dire, un être de connaissance qui met à distance ses passions, sa chair, sa sensualité, sa sexualité, et l'autre sœur qui incarne une position totalement antagoniste, et qui se dispute, voilà. Et vous savez ça, dès la première scène, vous dites, c'est drôle, pourquoi Molière opère à cette sorte de séparation, sorte de clivage entre connaissance et sexualité. L'idée m'a intéressé et voilà.
Vous pensez qu'il l'a fait sciemment et consciemment d'opérer ce clivage qui renvoie quand même aussi au dualisme cartésien, et c'est peut-être pas pour rien. On a deux hommes du 17e qui entretenaient peut-être cette réflexion. Est-ce qu'elle était d'époque pour vous?
Ouais. Alors évidemment, j'aurais pas la prétention de dire oui, voilà, je vais vous décoder la pensée de Molière. Et puis évidemment, comme chaque fois, vous savez, c'est vrai que souvent l'art de la lecture, en général, c'est la question de savoir si l'auteur voulait vraiment dire ça. Est une question intéressante, émouvante, mais c'est, je pense, jamais la question la plus importante. La plus importante, c'est est-ce que ce qu'on dégage comme interprétation fait sens? Est-ce que ça tient debout? Est-ce que c'est cohérent? Et à mon sens, effectivement, peut-être que Molière, et cette période du XVIIe siècle français, des premiers salons, du fait, en fait, un mouvement qui va donner en philosophie ce qu'on appelle la philosophie libertine du XVIIe siècle, au-delà de la dimension uniquement sexuelle dans laquelle on la retient, souvent on retient du libertinage que la dimension vraiment, on va dire, anti-pruderie, ou bien vraiment Chauderlot de Laclos, Valmont, etc. Alors que, dès le départ, c'est un double combat, qui naît à cette époque, on peut dire, vraiment. Le double combat, on pourrait le dire aujourd'hui avec notre vocabulaire du XXIe siècle, de libéralisation double de la culture et de la connaissance. Et le fait que lui nous donne, à cette période-là, où ce mouvement naît, et dont on sait qu'il était un des contemporains, qu'il connaissait bien la vie scientifique et la vie philosophique et sociale de son époque, le fait qu'il nous mette sous les yeux ce clivage, parce qu'il y a avant tout un clivage dans cette pièce, je pense que ce n'est pas anodin, effectivement. Qu'il nous dit quelque chose.
Pour ceux qui n'ont pas vu ou lu Les Femmes Savantes de Molière, vous reprenez un par un les personnages de cette pièce, vous faites une sorte de typologie aussi ou de profiling, oui, de chacune des femmes présentes dans le texte de Molière. Alors il y a Armande, la sacrifiée, sûre d'elle, dominatrice qui éprouve du dégoût pour la sexualité mais un fort appétit de connaissance qu'elle utilise comme une armure. Il y a aussi Henriette, l'amoureuse mais aussi l'imbécile heureuse. Tante Bélise, une vieille pucelle érotomane à vous lire mais entretenant un rapport éclairé à la connaissance et à la transmission. Enfin, citons Philaminte, une dame savante, et Martine, l'empêchée. Rapidement embrossé, voilà le portrait de ces femmes savantes telles que Molière les a imaginées. On écoute, pour entrer dans la pièce, un extrait d'une captation, d'une mise en scène de Jean Meyer, 1964.
Quoi ? Le beau nom de fille est un titre, ma sœur, dont vous voulez quitter la charmante douceur. Et de vous marier, vous osez faire fête. Ce vulgaire dessein vous peut monter en tête.
Oui, ma sœur.
Oh, ce oui se peut-il supporter ? Et sans un mal de cœur saurait-on l'écouter ?
Qu'a donc le mariage en soi qui vous oblige, ma sœur ?
Ah, mon Dieu, fille !
Comment ?
Ah, fille, vous dis-je. Ne concevez-vous point ce que, dès qu'on l'entend, un tel mot à l'esprit offre de dégoûtant? De quelle étrange image on est par lui blessé, sur quelle sale vue il traîne la pensée, n'en frissonnez-vous point. Et pouvez-vous, ma sœur, aux suites de ce mot résoudre votre cœur?
Les suites de ce mot, quand je les envisage, me font voir un mari, des enfants, un ménage. Et je ne vois rien là, si j'en puis raisonner, qui blesse la pensée et fasse frissonner.
De tels attachements au ciel sont pour vous plaire.
Et qu'est-ce qu'à mon âge on a de mieux à faire que d'attacher à soi, par le titre d'époux, un homme qui vous aime et soit aimé de vous, et de cette union de tendresse suivie, se faire les douceurs d'une innocente vie? Ce nœud bien assorti n'a-t-il pas des appâts?
Mon Dieu! Que votre esprit est d'un étage bas. Que vous jouez au monde de petits personnages, de vous claquemurer aux choses du ménage. Et de n'entrevoir point de plaisir plus touchant qu'un idole d'époux et des marmots d'enfants. Laissez aux gens grossiers, aux personnes vulgaires, les bas amusements de ces sortes d'affaires. À de plus hauts objets, élevez vos désirs. Songez à prendre un goût des plus nobles plaisirs et traitant de mépris l'essence et la matière à l'esprit comme nous. Donnez-vous tout entière. Vous avez notre mère en exemple à vos yeux que du nom de savante. On honore en tout lieu. Tâchez, ainsi que moi, de vous montrer sa fille.
Alors là, on a les deux profils types. On a la pro-sexe et la pro-connaissance.
Et la pièce commence comme ça. C'est la première scène.
C'est la première scène de l'acte 1. Hein,
voilà, celle qu'on évoquait,
que vous évoquiez. Elles sont toutes névrosées, ces femmes savantes.
Alors,
de Molière.
Oui, en tout cas, ma lecture, c'est qu'elles le sont toutes. Et là où ça devient peut-être moins sexiste, moins genré et plus intéressant aussi.
C'est que les hommes aussi.
C'est que les hommes aussi, évidemment. Et d'où le titre, Nous sommes tous des femmes savantes. C'est qu'en réalité, je crois que ce que Molière nous met sous les yeux, c'est que ce problème touche des femmes, mais touche aussi des hommes. Et en fait, touche les hommes et les femmes de manière extrêmement similaire, on pourrait dire. Une sorte de méta-similarité dans ce problème.
Alors à vous, le neurologue, le chercheur en neurosciences, que recouvre cette névrose cognitive-sexuelle que vous développez et détaillez dans cet ouvrage « Nous sommes tous des femmes savantes ».
Bien.
Qu'est-ce qu'elle qualifie ?
Ce qu'elle qualifie, en fait, c'est que si on revient sur le point initial, qui est le fait qu'on clive, et que Molière nous montre des personnages clivés, entre d'un côté l'expérience de la sexualité et l'autre l'expérience de la connaissance. Dès lors que l'on prend un peu de recul et qu'on se dit, bon, après tout, si on devait s'intéresser à chacune de ces expériences indépendamment l'une de l'autre, est-ce qu'elles ont quelque chose de commun en fait? Et dès qu'on se pose cette question, ce pas de côté, et en fait c'est comme ça qu'est née en fait l'idée de ce livre, c'est en voyant cette pièce, l'idée du clivage, Molière nous la renvoie. Mais j'avais en tête ce que j'avais développé dans Perdu nos connaissances, c'est une description, une sorte de description de qu'est-ce que c'est que la connaissance. Et dès que vous faites ça, vous vous rendez compte que ces deux sœurs jumelles, en fait, ces deux sœurs ici qui disputent, Armande et Henriette, nous parlent de deux expériences qui sont en fait des sœurs jumelles. C'est-à-dire que le point qui me semble très intéressant, c'est que la sexualité et la connaissance que Molière semble cliver ou opposer, en fait, c'est quasiment la même expérience. C'est-à-dire qu'à chaque fois, l'enjeu véritable de ces expériences subjectives, dès qu'on passe en caméra subjective, eh bien, c'est un peu la même chose. Alors, j'ai essayé de le décrypter, de l'analyser avec trois concepts, disons, basiques, hein, mais qui ont le mérite d'être clairs et de tenir sur pied. C'est qu'à chaque fois, on est pénétré par quelque chose, au sens vraiment général du terme. Dans la connaissance, ça va de soi. La connaissance, c'est l'expérience subjective de rencontrer une information qui est extérieure à vous. L'information, ça peut être un livre, ça peut être un poème, ça peut être n'importe quoi. L'accès à cette information, cette étape de pénétration, elle va être ou pas suivie d'une transformation subjective. Vous ne serez plus tout à fait le même après. Et ça, c'est médié souvent par un cadre un peu intersubjectif. Souvent, ça ne se joue pas tout seul, la connaissance. Je ne vais pas le développer là, mais donc on a trois propriétés.
En tout cas, il faut que j'accepte que le livre va me transformer.
Il faut que vous acceptiez le livre. Exactement. Et puis, pour être capable de lire et de comprendre un livre, il a fallu que vous interagissiez avec d'autres sujets. Et souvent, ces informations auxquelles on accède, elles sont médiées par des sujets. Par un professeur, par une personne de votre entourage, etc. Par un journaliste. Et une fois qu'on isole cette structure où il y a une pénétration, une transformation subjective et une intersubjectivité, on peut se dire, en fait, ça, c'est la même chose que la sexualité. La sexualité, cette fois-ci, ce n'est plus une information qu'on va rencontrer, mais disons, de manière générale, un corps sexué. Donc, il y a cette notion d'une rencontre, d'une pénétration. Alors, quand je parle de la pénétration dans la sexualité, ce n'est pas juste Bouvard et Pécuchet de revenir à la pénétration, disons, le truisme de l'acte sexuel. Évidemment qu'il est là, l'acte sexuel. Sans acte sexuel, on ne peut pas vraiment parler d'une sexualité. Et on pourrait même dire que les sexualités qui s'affranchissent de la sexualité incorporée, en fait, réfèrent de manière implicite au corps. Donc évidemment que la rencontre des corps est inévitable dans la sexualité. Mais ce qui est intéressant, c'est que la pénétration dont je parle, c'est plutôt une pénétration des intimités, une pénétration respective. Qu'on soit un homme ou une femme, vivre une relation ou une expérience sexuelle, c'est accepter d'être pénétré dans son intimité par l'intimité de quelqu'un d'autre. Et évidemment, de cette première étape, vous avez à nouveau la possibilité d'une transformation. Je ne la qualifie pas, elle peut être heureuse, malheureuse, on peut revenir là-dessus. Mais il y a ce deuxième temps de la transformation, et évidemment c'est par définition intersubjectif. Donc le point, et c'est le point de départ de ce livre, c'est que quand vous plongez dans les personnages, il y a un clivage entre deux choses qu'on éloigne, et aujourd'hui encore, si on se tourne vers notre société, l'idée même de rapprocher sexualité et la connaissance, on peut se dire c'est quoi, est-ce que c'est un coup, c'est pour s'amuser, mais dans beaucoup de représentations, on sépare vraiment les deux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on sépare deux choses qui sont quasiment la même chose. Et donc, en général, quand on sépare deux choses qui sont quasiment la même chose, c'est que la similarité de ces expériences et le fait qu'on les clive renvoient sans doute à un problème. Et c'est ça ce que j'appelle la névrose cognitivo-sexuelle, en tout cas sa forme moderne, c'est que peut-être qu'on les éloigne l'une de l'autre pour une autre raison.
Donc, à l'époque de Molière, le clivage valait aussi pour les hommes dans une période où les relations de domination étaient beaucoup plus fortes, plus hiérarchisées, plus inégalitaires aussi. Oui. Molière aurait chargé du même clivage intérieur ses personnages masculins, notamment dans Les Femmes Savantes, Trissotin, Vadius, Chrysal, Aristide et Clitandre.
Aristide et Clitandre, ouais, c'est ça.
À deux exceptions près. Hein.
Oui, exactement. On peut revenir dessus. C'est intéressant parce qu'il n'y a que deux personnages quand on vraiment se plonge. Et moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire ce livre. À faire même le pari de que quasiment les, je sais pas moi, la première grande partie, c'est une description, comme vous l'avez dit, des personnages. C'est vraiment aller dans le sérieux des personnages. Il y a deux personnages qui effectivement semblent avoir réussi, on pourrait dire, le défi, le double défi de la sexualité et de la connaissance. Il s'agit que ce sont deux hommes dans la pièce, Aristide et Clitandre. Mais le problème qu'ils ont, c'est que pour vivre une sexualité et une connaissance de manière épanouie, ben ça se fait pas tout seul. Il faut être plusieurs. Et qu'en réalité, leur conjoint, voilà, il y en a un qui est seul, l'autre qui est avec cette fameuse imbécile heureuse d'Henriette. Hein, c'est pas du tout péjoratif, c'est juste une description. Donc, il n'est pas vraiment voué à un bonheur très évident. Donc, effectivement, il y a ces deux personnages dont on pourrait dire la maturité confère également à l'échec parce qu'ils sont tout seuls. Donc, ça nous introduit la dimension sociale de la sexualité de la connaissance, ça nous la rappelle. Et malgré tout, comme vous le disiez, à l'époque à laquelle cette pièce a été écrite, évidemment, le statut d'une femme et d'un homme, même dans la grande bourgeoisie ou dans l'aristocratie, n'était pas le même qu'aujourd'hui. Et c'est peut-être pour ça que cette pièce s'appelle... La pièce s'appelle aussi... Elle s'appelait Trissotin ou Les Femmes Savantes. Le titre a un peu varié. Mais le fait que les femmes savantes soient vraiment des femmes dans cette pièce, je pense qu'on peut l'expliquer, non pas par un aspect de misogynie, mais par un aspect de vouloir libérer les hommes et les femmes de cette double contrainte qui existait à l'époque, en favorisant l'émancipation sexuelle et de la connaissance, eh bien peut-être que là où cette difficulté était le plus symptomatique, c'était peut-être, comme vous le disiez, plus pour des femmes que pour des hommes, du fait du différentiel entre l'avant et l'après cette révolution, on pourrait dire. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je veux dire, mais autrement dit que je ne cherche pas à sauver Molière à tout prix, mais qu'évidemment, c'est comme en science ou en lecture, il ne faut pas éviter les problèmes. Cette pièce, elle résonne comme une forme de pièce misogyne, une sorte d'oxymore. Mmh. Femmes et savantes collées ensemble, ça fait une expression « laissez-moi rire ». Alors pourquoi Molière, qu'on adore en général pour sa liberté de penser, il fait ça? Je pense que ce n'est pas nécessairement un échec.
Sauf qu'il y a Trissotin aussi, qui porte dans son nom quand même la marque de son inculture, en tout cas de cette armure à la connaissance. Molière était-il misogyne? Ah, elle a récemment mis en scène Les Femmes Savantes, Macha Makaïev, sur Molière, les femmes et la détresse masculine.
J'entendais derrière sa malice aussi, son humour, cette écriture extrêmement tendue, forte, puissante, parce qu'il est question aussi du beau langage, donc le poète dramatique s'en donne à cœur joie. Derrière tout ça, oui, quelque chose de désabusé, et c'est très touchant. Il y a quelque chose qui se fait entendre, d'une musique qui s'entend rarement chez Molière, d'une certaine façon. Ce contre-champ masculin à l'émancipation des femmes, ce désarroi, quelque chose qui, pour moi, reste une totale énigme, à savoir que devant, oui, toute forme de liberté que cherchent les femmes, s'ensuit le désarroi, une certaine détresse masculine.
Macha Makaïev, autour de cette détresse masculine que vous évoquez aussi, présente dans Les Femmes Savantes. Vous en avez discuté d'ailleurs, vous vous êtes rencontrés, vous avez rencontré maintenant tous les metteurs en scène qui ont eu affaire aux Femmes Savantes de Molière.
Oui, la représentation à laquelle j'avais assisté en 2016 était montée par Catherine Yégel, et il s'avère de manière miraculeuse, c'est pas du tout un coup marketing, mais que ce livre est sorti le 10 avril, qui était la date en fait de création des Femmes Savantes, de Trissotin ou Les Femmes Savantes par Macha Makaïev, qu'on vient d'écouter à l'instant, le même jour, et Gilles Nussenbaum, pour le citer, a organisé une rencontre entre nous, et je dois dire que c'était une belle rencontre, voilà. Et à la fois par des intuitions communes, par des points différents qui nous ont intéressés, plutôt pour Macha Makaïev, cette notion d'illimité du désir féminin et la réaction de l'homme face à ça, et qui est un point fascinant. Et la représentation, la mise en scène qu'elle fait est extrêmement brillante, extrêmement géniale, et il y a beaucoup d'intuitions communes, par exemple, dans sa pièce, pour ne pas spoiler, Armande est authentiquement sacrifiée dans sa pièce. Et donc pour moi, de voir cette représentation avec Armand quand le chapitre que je lui consacre, Armand l'a sacrifiée, et de voir qu'elle est effectivement sacrifiée physiquement, en fait, qu'elle disparaît, et beaucoup d'autres éléments. Donc oui, j'invite tout le monde, je crois qu'à Marseille, aux Têtes de la Criée, je crois qu'à Paris, c'est fini.
Il faut vérifier. C'était à la Scala à Paris jusqu'au 10 mai, et Macha Makayev est la directrice du Théâtre de la Criée à Marseille, où elle reprendra très probablement, pardon, je n'ai pas non plus vérifié, cette pièce Trissotin où les femmes savantes, dans sa mise en scène d'ailleurs, Macha Makayev, un peu comme vous, adapte la pièce à une période de plus contemporaine, elle, aux années 60. Vous estimez, Lionel Nakache, que le complexe des femmes savantes est encore vivace aujourd'hui. En quoi est-ce un complexe pour vous des temps modernes? Qu'est-ce qui, dans notre époque, produit encore cette névrose?
Mon idée, que je peux exprimer évidemment très très simplement, et ensuite c'est le fait de tirer les fils qui peut être plus intéressant encore, mais l'idée est simple. L'idée est la suivante, c'est que si on s'accorde à reconnaître que la sexualité et la connaissance sont quasiment la même chose, entre guillemets, une expérience de transformation subjective qui est médiée par la possibilité de se faire pénétrer par une information ou un corps. Donc il y a deux temps. Il y a l'accès, on va dire, à l'extérieur, l'accès à l'information ou l'accès au corps sexué.
Voilà, cette idée de connaissance et sexualité fonctionne selon des mécanismes communs.
Exactement. Donc si on a deux temps, on a le temps de l'accès et le temps de la transformation, on pourrait dire, et c'est ma grille de lecture, c'est qu'à partir du XVIIe siècle, il y a quelque chose de fondamental qui opère, c'est qu'on va se battre, et je ne parle pas de manière complotiste, c'est un mécanisme global d'une société, d'une histoire, on commence à se battre, à cette époque de Molière, pour essayer de gagner, on pourrait dire, le combat pour l'accès. Ça veut dire rendre l'accès plus possible, aussi bien en matière de connaissance que de sexualité. C'est ça la philosophie libertine, c'est ça ce qui va se passer aussi au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, les révolutions, le combat contre l'illettrisme, l'alphabétisation, être capable de rencontrer la connaissance, d'apprendre à lire, de penser, etc. La scolarisation, on peut aller très loin. Dans la sexualité, la même chose. Une sorte de libéralisation de la vie sexuelle, des statuts, des identités subjectives, ça se joue sur des siècles. Et c'est vrai que Macha Makayev, en incarnant cette pièce dans les années 70, qui est effectivement à la période clé contemporaine de libéralisation sexuelle, mais aussi de la connaissance. Donc, pour moi, la période moderne, c'est ça. Et évidemment, on vit dans cette période, on est marqué par cette période, et ce que je soulignais, c'est que la forme contemporaine de cette névrose, et j'arrive à votre question, c'est que si on essaye de résoudre le combat pour l'accès, on ne s'est pas occupé de la deuxième étape qui est la transformation subjective. Et que parfois, lorsqu'on accède très facilement à quelque chose, mais sans avoir pris en compte le fait qu'il va y avoir la transformation de soi après, la transformation de soi, c'est aussi difficile. C'est un problème. Parce que souvent, on n'aime pas être transformé. On n'aime pas changer. On n'aime pas être rendu... On n'aime pas être, en réalité, menacé dans notre stabilité immédiate. Donc, ce que j'appelle la forme moderne de cette névrose, c'est que plutôt que d'éviter la transformation par éviter la rencontre avec l'information ou avec la sexualité, on démultiplie les accès, on a gagné, on pourrait dire, le combat pour l'accès, pour le libre accès en termes de connaissances et de sexualité, pour aller un peu vite. Mais par contre, on est confronté aux difficultés de la transformation de soi et que la réaction névrotique à ça, c'est pas là. On n'est pas tous névrosés et on n'est pas tous tout le temps névrosés. Mais que le problème contemporain pour moi, c'est que, ayant démultiplié les accès, on se retrouve à être menacé par un risque de transformation qui nous pousse à nous verrouiller. Autrement dit, ce que je pense, c'est qu'être une femme savante, homme ou femme aujourd'hui, c'est se verrouiller, se cadenasser à l'avance. Et quand ensuite on vit une expérience de connaissance ou de sexualité, on empêche la transformation en nous. Autrement dit, une sexualité ou une connaissance qui est réduite à la question de l'accès. L'accès à l'information, l'accès au corps, mais que le vrai enjeu de la connaissance et de la sexualité, qui est la transformation de soi, eh bien, pour éviter à la fois sa potentialité, mais les peurs qu'il nous inspire, ce facteur de transformation, eh bien, on se verrouille. Pour moi, c'est ça le symptôme. C'est que c'est tout ce qui, dans nos comportements, révèle ce verrouillage de soi, cet empêchement de se transformer par ce qu'on vit. Et donc, c'est très nouveau, parce qu'auparavant, lorsqu'on avait peur aussi de la connaissance et de l'actualité, on empêchait l'accès. Le cloisonnement de la connaissance, toutes les contraintes sur la sexualité, etc. Peut-être que la période moderne qui naît maintenant au XVIIe siècle, c'est que on libéralise l'accès, mais du coup, on se prend en pleine tronche tout le problème de la transformation, et une façon névrotique d'y réagir, c'est plutôt que d'être capable d'accepter cette transformation, c'est de se double verrouiller, aussi bien dans l'information, et vous avez le complotisme, et vous avez plein de choses, et aussi bien dans la sexualité, une sexualité où MeToo peut être revu.
Alors,
par MeToo,
justement, c'est une manifestation névrotique, ou c'est au contraire une libéralisation de l'accès
je
à
pense
ce
que
jeu
c'est un rendez-vous possible. C'est un rendez-vous possible qui peut nous aider à prendre conscience de ce que je viens de dire. Autrement dit, MeToo, il y a deux choses. Je pense que c'est très important de le rappeler à chaque fois, mais j'ai absolument rien d'intéressant à dire sur l'aspect criminalité. La criminalité sexuelle, elle doit être reconnue, combattue, jugée, punie. Voilà. Donc j'ai rien à dire sur cette dimension-là. Mais ce qui m'intéresse le plus, au-delà de ça, c'est qu'il y a eu en réalité un embrasement planétaire, et ça aurait pu survenir pour d'autres affaires auparavant. Pourquoi Weinstein, etc. Et pour aller très vite, je crois que MeToo, c'est une potentialité pour prendre conscience que la sexualité, c'est pas uniquement une histoire de performance, une histoire d'accès au corps. Évidemment, l'accès au corps est indispensable s'il n'y a pas de sexualité. Mais que le vrai enjeu de la sexualité, c'est que cet accès au corps s'accompagne d'une transformation de soi. Et cette transformation de soi, plutôt que d'y rester aveugle ou de pas la prendre en compte, il faut réintroduire, donc pour moi, très vite, MeToo, c'est la possibilité, la potentialité, si on sait l'utiliser, de réintroduire la subjectivité dans notre conception de la sexualité. De la réintroduire de manière plus forte, plus claire, plus consciente. Et de manière presque lacanienne, quand j'avais développé cette analyse et je me rendais compte que le slogan MeToo, si vous le prenez au sens propre, alors MeToo c'est moi aussi j'ai une expérience de harcèlement à rapporter, mais ça peut être aussi autre chose. MeToo ça veut dire je conçois que dans la sexualité il y a quoi ? Il y a aussi moi, il y a MeToo, il y a moi aussi. Autrement dit, ça peut être une occasion de nous aider à lutter contre cette névrose moderne, mais ensuite est-ce qu'on réussira ou pas ? On verra, mais c'est un rendez-vous possible.
Alors des fake news à Wikipédia de MeToo à YouPorn, la connaissance et la sexualité connaîtraient pour vous, Lionel Lacache, l'une comme l'autre, une phase de grand désordre planétaire. On va tendre maintenant les projecteurs, les orienter vers la question de la connaissance avec Wikipédia, ce que Wikipédia fait à l'information ou à la connaissance. On va écouter les mots de son ancien président, le président de la fondation Wikimedia en France, Rémi Matisse, conservateur par ailleurs à la BNF.
Wikipédia a une influence sur vos vies, pour le meilleur ou pour le pire. Le meilleur, c'est justement tous ces usages que vous pourrez faire de Wikipédia, qui seront justement de, pour vos enfants, aller voir finalement ces informations qui lui permettront de faire son exposé et éventuellement se dire qu'un exposé n'a plus forcément de pertinence à l'époque de Wikipédia. Ce sera lors d'une soirée au cours de laquelle vous êtes posé des questions sur les dates de naissance et de mort de Jean Barre avec quelques amis, pouvoir vérifier immédiatement quelles étaient les dates de naissance et de mort de Jean Barre. C'est 150-1702. Si vous pouvez vérifier ça aussi, c'est aussi un changement qui se passe dans votre rapport à l'information. C'est-à-dire que depuis que Wikipédia existe, ça semble normal pour vous que vous puissiez avoir accès à une information de manière rapide, de manière claire, sans avoir à vous déplacer jusqu'à la bibliothèque universitaire de l'Université Paris Diderot ou jusqu'à la BNF qui est pas loin, ou sans avoir à retenir dans un petit coin de votre tête que vous avez parlé de Jean Barre et donc à aller voir dans le nouveau Larousse illustré quelles étaient les dates quand vous rentrez chez vous et systématiquement vous oubliez, donc vous ne saviez jamais les dates de Jean Barre.
Lionel Nakache, Wikipédia, c'est le retour de la connaissance à moindre frais ou au moindre effort en nous ?
Oui, au moindre effort. Et déjà, ça incarne, c'est vrai, parfaitement Wikipédia, pour le citer, et d'autres outils, le fait que si on revient sur ce schéma que la connaissance est la question de l'accès et de la transformation, on peut dire d'une certaine manière que Wikipédia, c'est une façon de régler une fois pour toutes la question de l'accès. C'est-à-dire que l'accès aux informations, maintenant, nous est offert sans effort. Et comme le rappelait, j'ai pas retenu son nom, pardon, mais...
Rémi Matisse.
Rémi Matisse, voilà, pour le mentionner. Effectivement, on n'a plus besoin de faire cet effort. Un enfant qui fait un exposé, nous, on a ses souvenirs de devoir aller acheter des... Il y avait une sorte de revue avec une couverture rouge, on découpait, on faisait des collages, on écrivait dans la bibliothèque, etc. Donc tout ça, on n'a plus besoin. Mais une façon intéressante de revisiter ce symptôme, c'est qu'aujourd'hui, où le complotisme, par exemple, explose, vous pourriez vous dire, c'est bizarre, parce que si j'ai une conception naïve de la connaissance, si je me dis la connaissance, c'est uniquement accéder aux informations. Alors avec un outil comme Wikipédia, où je peux corriger mes erreurs, où je peux corriger mes insuffisances, où je peux trouver une information que je ne connais pas, on pourrait se dire naïvement, eh bien, il n'y aura plus de complotisme. C'est-à-dire que si je me pose une idée, une question, je me dis peut-être que l'homme n'a pas marché sur la Lune, en consultant des informations, alors peut-être que je pourrais résoudre tous mes problèmes de doute. Et on voit que c'est évidemment le contraire qui se passe. Alors pourquoi le contraire ? Non pas que je sois contre Wikipédia, je suis pour Wikipédia, c'est pas le problème. Mais parce que si vous ne concevez pas que la connaissance, c'est pas uniquement l'accès aux informations, mais c'est également la capacité à se transformer, eh bien vous vous rendez compte que se transformer, c'est pas uniquement garanti par l'accès à l'information. Et donc, la société dans laquelle on vit, c'est très bien, une société de l'information, on préfère celle-ci à une société qui l'a précédée, mais c'est une société intéressante, mais c'est une société qui n'est pas encore, on pourrait dire, aboutie pour envisager comment accompagner le processus de connaissance qui ne se limite pas à Wikipédia. Et comme vous le disiez, peut-être un des effets collatéraux, c'est que vous avez moins d'efforts à faire, et l'effort, je ne fais pas une apologie de l'effort pour l'effort, mais l'effort, c'est souvent une façon de prendre conscience que vous êtes là aussi, comme tout à l'heure pour MeToo, il y a moi aussi. Et bien dans la connaissance, il n'y a pas que l'information, il y a moi aussi. Et moi, ça veut dire ce que je crois, ce que je pense, ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, de prendre en compte votre propre caméra subjective. Voilà. Et c'est bien illustré par cet exemple de Wikipédia, je trouve.
Voilà, seul remède proposé contre cette névrose que vous définissez, Lionel Takache, réintroduire de la subjectivité dans l'une comme dans l'autre, dans la connaissance comme dans la sexualité, ce qui suppose de guérir un peu le mal par le mal, puisqu'il faut accepter de se laisser pénétrer par sa propre subjectivité. Vous faites beaucoup appel d'ailleurs dans ce livre à la psychanalyse, vous en avez profité pour vous, vous auto...
Pour moi, analyser tout ça, écoutez, j'ai pas fait de...
Et de champ, connaissance,
sexualité. Là, c'est intéressant, j'ai pas conduit de psychanalyse, mais je suis un grand lecteur de Freud depuis longtemps, et vous savez, c'est étonnant parce que souvent, on nous pose la question, mais les neurologues, ils ont beaucoup à faire avec la psychopathologie et la neuropsychologie, depuis Freud et même avant Freud, non pas, je dirais pas plus que les psychanalystes ou plus que les psychiatres, mais quand vous êtes neurologue, souvent, c'est pas par hasard que vous faites ce métier, c'est souvent parce que vous êtes fasciné par la question des contraintes biologiques de la subjectivité. Autrement dit, comment est-ce qu'on peut avoir cette caméra subjective, cette façon d'être au monde, de penser, de se représenter, de dire « je suis là », et que pour autant, vous savez qu'il y a plein de contraintes, notamment pas que du système nerveux qui agissent. Donc oui, un neurologue qui re-questionne la psychopathologie, ça sonne toujours un peu bizarre, mais en fait, c'est assez naturel.
Et ça marche par la transdisciplinarité. Merci beaucoup, Lionel Takache,
d'être passé autour
de cette grande table. Nous
merci
sommes
beaucoup.
Tous des femmes savantes, sachez-le, autour de cette table. Votre nouvel essai vient de paraître chez Odile Jacob. Il est 13h23 sur France Culture, comme un jeudi sur deux, le rendez-vous de la médiatrice.
La grande table. Le rendez-vous de la médiatrice.
Et c'est avec vous Emmanuel Devier, bonjour.
Bonjour Olivia.
Et votre invitée aujourd'hui, Sandrine Trainer, directrice de France Culture. Bonjour.
Bonjour. Sandrine Trainer, bonjour. On commence avec l'émission L'Esprit public en direct du Théâtre de l'Odéon et le courrier de Sylvette. Elle nous écrit « Je suis une fidèle auditrice de l'Esprit public. Même si je ne suis pas souvent en accord avec les participants, j'apprécie la tenue de cette émission et le respect entre les différents intervenants. Écoute, argumentation, respect des opinions des uns et des autres. Aussi, à chaque fois que l'ancien député européen Daniel Cohn-Bendit est invité, tout part à volo et l'émission se transforme en un classique de ce qui se voit sur les pires chaînes d'infos continues. La vocifération, la remise en cause des personnes en tant que telles, l'absence d'arguments clairs, le non-respect de la parole des autres et j'en passe. Est-il bien utile de continuer à inviter quelqu'un incapable de discuter avec d'autres et qui plus est toujours convaincu d'être en meeting à la recherche d'applaudissements alors même que de l'autre côté du poste de radio, on n'a qu'une envie, lui rappeler les bonnes manières et la correction. Fin du long message de Sylvette. Alors j'indique que le service de la médiation a reçu plusieurs courriers allant dans ce sens. Que répondez-vous à vos auditeurs, Sandrine Trainer ?
Ben dites donc, il en prend pour son grade, hein, Daniel Cohn-Bendit. Écoutez, non, c'est frappant enfin, que ce soit à ce moment-là que vous receviez des courriels. Il me semble que c'était la troisième fois qu'il participait à nos séances en public à l'Odéon. Et je dois dire que dimanche, je crois qu'il est arrivé, il était un peu de méchante humeur. Pour autant, je ne crois pas que sa prestation ait été exactement conforme à ce qui est décrit. Mais je peux comprendre parce que nous n'avons pas l'habitude, effectivement, de cette forme de débat ou d'intervention. Je peux comprendre que ça choque particulièrement certaines oreilles habituées à un autre ton sur France Culture. Écoutez, je voudrais juste dire, rappeler en deux mots que nous avons commencé à faire quelques séances en public, en direct, à l'Odéon cette année. Ça nous semblait très pertinent à Émilie Aubry, à l'équipe, à moi-même, puisque vous savez, ce théâtre de l'Odéon, en fait, il s'appelle l'Odéon Théâtre de l'Europe et on était dans une année très européenne. Ça nous paraissait bien d'aller au contact d'un lieu qui symbolise à la fois l'Europe, l'esprit européen, la culture en Europe. Et on s'était dit, ce qui serait bien, puisque Stéphane Braunschweig, son directeur, nous a accueillis de manière très 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 chaleureuse, on s'était dit, ah, ce serait bien qu'il y ait un fil rouge comme ça de nos séances cette année. Donc on a cherché un grand européen et on a pensé que Daniel Cohn-Bendit n'était pas le moins bien placé pour figurer cette personne. Voilà, pour autant l'élection européenne a lieu, comme vous le savez, dans une quinzaine de jours. Nous avons une dernière séance en public et en direct au Théâtre de l'Europe à l'Odéon fin juin. Et du reste, il n'y sera pas. L'année prochaine, nous resterons au Théâtre. Je pense que le lieu du Théâtre est quand même un véritable lieu pour parler de politique. Après tout, c'est pas pour rien que l'on parle de scène politique et de scène théâtrale. Mais nous allons réinventer tout à fait le dispositif.
Alors, précisément, cette scène politique et théâtrale, on va y rester avec la seconde question, toujours à propos de l'esprit public et toujours à propos du Théâtre de l'Odéon. Question posée par Loïc. Pourquoi faire cette émission au Théâtre de l'Odéon alors que Radio France dispose de nombreux studios très adaptés? Ma fille a assisté à une de vos émissions à l'Odéon. Vous êtes assez précaire autour de votre petite table et en plus, il faut payer l'entrée. Utilisez donc vos moyens en faisant du service public, c'est-à-dire de la qualité et de l'accès pour tous, donc gratuit. Et tout de suite, donc, Loïc, et bien la réponse de Sandrine Trainer.
Non, mais je suis entièrement d'accord avec Loïc. Donc, pourquoi aller de temps en temps dans un théâtre? Eh bien, pour la raison que je viens d'énoncer, pour sortir aussi de nos habitudes les plus quotidiennes. Et puis, par ailleurs, parce que c'est le seul point sur lequel, malheureusement, Loïc a tort, nous ne disposons pas de nombreux studios, et surtout pour accueillir du public, parce que la maison de la radio, comme vous le savez bien, Emmanuel, est en travaux encore pour quelques années. Et donc, nous n'avons plus de studio à la mesure des émissions en public. Donc, oui, bien sûr, pour les concerts, notre grand auditorium. Oui, bien sûr, pour les fictions, le studio 104. En revanche, nous avons besoin de lieux extérieurs pour rencontrer notre public, d'où la raison pour laquelle nous allons y être. Effectivement, quand elle était prise par le Théâtre de l'Odéon, était très légèrement payante pour amortir les frais de gardiennage. Nous sommes bien d'accord avec Stéphane Branchevec sur le fait que l'année prochaine, les séances seront tout à fait gratuites. Je suis tout à fait d'accord.
Très bien.
Et le théâtre aussi, ils ont été les premiers à chercher la solution pour rendre ces séances tout à fait gratuites.
Très bien. On termine avec cette remarque de Damien. Toutes les langues véhiculent une ou plusieurs idéologies. L'anglaise se caractérise par l'individualisme, le libéralisme et surtout c'est la langue du commerce, donc de la croissance. La croissance que l'on peut résumer par cette maxime. La croissance n'est qu'une prise de part de marché sur la nature. Il me semble donc parfaitement contraire de vouloir défendre l'écologie dans le week-end imagine de France Culture et de nous passer de la musique anglo-saxonne, écrit cet auditeur qui souhaite savoir, Sandrine Trainer, quelle est la part de musique anglo-saxonne pour les génériques de fin des émissions de France Culture.
Ah là là, moi qui pensais que l'anglais était aussi la langue de Shakespeare, de James Joyce, de Philip Roth ou de Richard Fall, à l'évidence ce n'est pas uniquement la leur. Écoutez, vous savez, les génériques, ce qu'on appelle l'habillage des émissions est conçu essentiellement en rapport avec l'identité des émissions elles-mêmes. Nous laissons une grande marge de manœuvre aux chargés de réalisation et aux producteurs pour travailler leur générique. Je suis incapable de donner les pourcentages, mais enfin, j'en vois plein qui sont composés de musique classique ou de musique française, y compris de textes en tant que tel dit dans les génériques. Donc je crois pas que ce soit un gros sujet, et je crois pas non plus que l'anglais soit simplement la langue du commerce.
Merci Sandrine Trainer.
Merci à vous.
Merci beaucoup à toutes les deux. Les auditeurs de France Culture peuvent continuer à vous écrire, Emmanuel Davier. Merci à toute l'équipe de la Grande Table pour cette programmation. Très bel après-midi à tous sur France Culture.